RCF.
Comme il y a de la place dans ta vie, mon Dieu, comme c'est doux de ne pas lui fermer la porte à cette vie, avec mes familières litanies sur ce qui devrait être, de me laisser gagner par elle sans préalable, sans condition, sans justification, par le bout avec lequel elle m'arrive. C'est un extrait de votre livre, Marie-Laure Chauplin, Un seul corps. Je rappelle qu'il paraît dans la collection Petite bibliothèque de spiritualité chez Labor et Fides. Qu'est-ce que ça signifie, fermer la porte à la vie ?
Il y aurait plein de façons de le dire et je pense qu'on a chacun ou chacune une expérience très particulière, très singulière de ça. Ce serait intéressant d'ailleurs que chacun puisse se dire, quand vous posez cette question, pour moi c'est quoi ? Je crois qu'il y a quelque part où on sait ce que c'est quand on ferme la porte à la vie. Pour moi, en tout cas, quand j'écrivais ce que vous avez cité, fermer la porte à la vie, c'est accorder entièrement du crédit à mon fantasme au lieu d'ouvrir, ouvrir à ce qui se donne. J'intervenais en DU de soins palliatifs là, au CHU de Grenoble sur la vie spirituelle et je cherchais une définition de la vie spirituelle qui ne soit pas trop religieuse et j'avais écrit une chose qui me convient encore aujourd'hui très bien, que je vous ai amenée là, c'est la vie spirituelle, c'est ce mouvement d'ouverture en nous à la vie qui se donne, dans lequel les choses commencent à rayonner et déploient pour nous un espace. Alors ça paraît peut-être très abstrait quand je dis ça. Ça veut dire que si je laisse le mouvement de la vie, l'ouverture à la vie se faire dans ma journée toute bête, alors les choses peuvent rayonner. Je fais exprès de dire les mots choses parce que c'est pas seulement les gens pour moi.
Mais alors donnez-nous un exemple parce que votre livre, il en est plein.
Ça peut être vraiment n'importe quoi. Par exemple, je viens de mettre sur mon site internet une photographie de tasse, une tasse à café. Une tasse à café, c'est typiquement le genre de chose qui peut ne pas parler du tout. C'est utile, ça sert à quelque chose et on s'en sert. Quand ce mouvement d'ouverture à la vie se fait, j'arrête de plier les choses, y compris les choses usuelles et habituelles à mon caprice ou à mon besoin. Et je laisse de l'espace pour que ces choses parlent.
Même une tasse à café.
Même une tasse à café. Même quelque chose d'extraordinairement concret. Et ce qui est étonnant, c'est quand les choses rayonnent dans cet espace que je laisse. Une autre façon pour moi de l'appeler, c'est de parler de chasteté. Chasteté, c'est empêcher que les choses et les gens soient sous mon emprise et servent mon besoin du moment. Donc quand je laisse cet espace-là, les choses rayonnent. Et quand les choses rayonnent, elles me donnent une place, elles me déploient un espace pour être. Et ça, je trouve que Jésus, ça paraît très loin peut-être de l'évangile, ce que je raconte là sur la tasse à café. Pourtant, je trouve que c'est exactement ce qu'il fait dans ses rencontres.
Il laisse de l'espace.
Il laisse de l'espace. Et plus qu'il laisse de l'espace, il déplie, je l'imagine toujours déplier un tapis de rencontres au pied des gens pour qu'ils aient la place d'exister. Il restitue de l'espace autour des personnes. On s'étonne parfois de le voir demander, et parfois même ça peut sonner un peu cruel à nos oreilles, que veux-tu que je fasse pour toi ? Ou, enfin, c'est une évidence, tu vois pas ce dont je manque. Et j'y vois pas du tout un Jésus qui saurait, qui aurait la bonne réponse, mais qui attend qu'on trouve par nous-mêmes. Mais j'y vois cet espace qui nous laisse, c'est-à-dire, il peut pas savoir notre désir et il nous laisse de l'espace pour être. Pour moi, c'est vraiment ça. Et dans cet espace, tout d'un coup reconquis sur la tyrannie permanente de l'utile dans nos existences, les choses rayonnent et on a de la place pour être.
Pour être comme Jésus, lui, cette vie, il apprend tout entière. Il rencontre joie et peine, amitié et trahison, enthousiasme et fatigue. Au fond, lui, il prend la vie de plein fouet, mais alors avec tout ce qu'elle transporte.
C'est ça. Tout entière. Fatigue, peine, enthousiasme, trahison, tout entière.
Et c'est ça la vraie vie.
C'est la vie, quoi. Et après, on peut l'apprendre que par tout petit bout. L'autre fois, je parlais de Dietrich Bonhoeffer, et là, c'est lui de nouveau qui me revient quand il écrit ses lettres à son ami, des lettres de prison. À un moment, il parle de ses camarades qui sont en prison avec lui, et il dit, mais il s'acharne à prendre la vie seulement petit morceau par petit morceau, c'est-à-dire le petit morceau qui me va et qui me paraît supportable. Et il dit, sans d'ailleurs l'expliquer de façon théorique, c'est vraiment une lettre d'ami, il dit que la vie prise comme ça, petit morceau par petit morceau, elle perd tout son sens. Et c'est qu'en la prenant en entier qu'il y a un sens qui peut se faire jour, en entier. Et il dit d'ailleurs qu'en Jésus-Christ, Dieu bénit l'existence tout entière. tout entière.
Mais vous qui êtes aumônier d'hôpital, comment le vivre quand on est au cœur d'une épreuve? Se tout prendre, finalement.
Se tout prendre. Il y a comment le vivre quand on est soi-même au cœur d'une épreuve, et il y a comment le vivre, ce qui est peut-être encore plus difficile, quand les gens qu'on aime y sont, et qu'on trouve tellement terrible et injuste et insupportable de les voir souffrir. Moi, mon expérience, c'est que je bataille toujours avec ça. Surtout quand c'est l'autre qui souffre, ça m'est toujours extrêmement pas naturel. Et ce qui vient toujours en premier, c'est la colère. Je crois que d'une certaine façon, c'est pas un travail que moi je peux faire ou que nous on peut faire de consentir ou de dire oui à tout. C'est quelque chose qui nous est donné, qui à un moment arrive et qui ne peut pas être la conclusion d'une logique ou d'un raisonnement, parce que sinon ce serait affreux. Au bout d'un raisonnement, il peut pas y avoir que le mal ou la souffrance est supportable. Il y a un moment où embrasser la vie, ça peut être que l'embrasser en entier, et à ce moment-là, nous est donné quelque chose, je crois, pour le vivre en entier. Et je crois qu'il y a des moments, en tout cas dans mon expérience d'aumônier, c'est vrai, et dans mon expérience de femme, c'est vrai aussi, il y a des moments, même s'ils sont malheureusement brefs, où pour moi c'est une évidence qu'il n'y a pas de choses qui soient indemnes de la vie, y compris dans les lieux de grande souffrance. D'ailleurs, je parlais de Dietrich Bonhoeffer, qui a été arrêté par la Gestapo et qui sera d'ailleurs tué par la Gestapo. Je pensais à Etil Soum, j'avais fait un travail de théologie qui articulait les deux, parce que ces deux personnes qui ont été vraiment confrontées au pire, et qui pourtant sont dans un mouvement d'ouverture qui fait que la vie leur parvient en entier. C'est vraiment étonnant, cette articulation des deux, mais je crois pas que ça se fabrique.
Dans votre livre, Marie-Laure Choplin, vous nous donnez à regarder une petite fille qui joue à la marelle. Dansons comme elle fait, elle, faisons en vivant une musique où tout le monde peut vivre. Donc chacun d'entre nous a cette petite note à jouer, cette petite musique, pour être vivant.
Ah ouais, ça je crois que c'est sûr. À jouer, mais sans partition écrite, sans manuscrit à déchiffrer, sans... à inventer, à improviser. J'ai réalisé en relisant le livre pour vous aujourd'hui que c'est quand même plein de personnes croisées qui sont soit des enfants, soit des personnes à qui il manque quelque chose, quoi, pour être en tout cas des puissants, qui ont des blessures ou des souffrances apparentes ou des inadéquations au monde apparentes.
Ben vous citez beaucoup les enfants.
Oui.
Et puis aussi des personnes dans la rue.
Oui.
Des personnes qui sont un peu en marge.
Et j'ai réalisé du coup, avec ces personnes-là, avec les enfants, pour moi c'était très clair avant, mais avec les autres adultes aussi, à quel point ils me réconciliaient avec l'existence. Je ne m'étais jamais dit les choses comme ça, même si j'ai toujours eu un net penchant pour aller du côté du monde où on n'est pas adéquate. Et pour les personnes qui ne sont pas adaptées, il n'empêche, j'avais jamais réalisé à quel point c'est réconfortant, à quel point ils m'apprennent à vivre en vivant comme ils sont, à quel point c'est contagieux. À quel point c'est contagieux de voir quelqu'un vivre sa vie comme il est.
Mais comment faire pour improviser sa vie quand aujourd'hui tout est quand même normé, calculé, ne serait-ce que dans une semaine? Ça veut dire quoi, laisser la vie nous rendre vivants, nous... à la limite se couler comme on se coulerait dans une rivière, et pas forcer.
Oui, ça pourrait tout à fait être une expérience comme ça. C'est-à-dire qu'improviser sa vie, ça ne veut pas dire nécessairement « Génial, aujourd'hui j'ai une page complètement blanche, je vais pouvoir faire ce que je veux ». Improviser sa vie, ça veut dire dans des contraintes qui sont peut-être maximales et où il y a très peu de marge de manœuvre pour faire quelque chose, le considérer comme étant la chose la plus merveilleuse qu'il y a à vivre aujourd'hui, cette journée-là, exactement telle qu'elle est. C'est ça l'improvisation, ça veut pas dire... D'ailleurs, cette petite fille-là, c'était dans la cour d'une école qui était visible de l'extérieur, donc je la regardais. Je veux dire, elle avait très peu de choix, la récréation, ça dure 10 minutes, c'est entre tel truc et tel truc. La marelle, elle est tracée comme ça, elle a on pourrait dire de l'extérieur, extrêmement peu de choix. Tout d'un coup, c'est un monde infini et c'est extraordinairement contagieux pour celui qui est à côté.
Vous mettiez en parallèle cette vie vivante à accueillir instant après instant et puis le fantasme tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Ce que moi je veux dire, c'est mes croyances que la vie est réussie si ceci et non pas si cela. À chaque fois que je viens mettre une grille préfabriquée sur l'existence, ça vaut pas, ça devrait être comme ça, sinon c'est raté. Ça, c'est un fantasme. Et ça, vraiment, ça coupe de l'existence comme elle arrive.
Donc c'est tout ce que on voudrait et ce sans quoi on se dit ça va pas.
Ouais, ça va être raté, c'est pas possible ou c'est pas ça le bonheur ou et je trouve qu'il y a une insistance vraiment très lourde, très prégnante en ce moment pour nous faire croire que la joie c'est comme ça, ça c'est positif, ça on doit trouver ça bien. Ce qui est d'ailleurs un autre façon de dire ce que vous disiez tout à l'heure en disant prendre la vie tout entière. Prendre la vie vraiment tout entière. Prendre la vie vraiment tout entière comme elle vient.
À demain, Marie-Laure Choplin.